30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez chaque jour, vous montrer qu'il y a en France des talents qui ne demandent qu'à se développer, des idées qui attendent de germer et que c'est vous qui les portez dans vos associations, vos territoires ou encore vos entreprises. Gros plan aujourd'hui sur ceux qui portent justement les couleurs de la France à l'étranger. Ils rentrent tout juste du CES de Las Vegas et ils ont été parmi les entreprises les plus récompensées pour leurs innovations. Elle en serre les tailles des hommes et des femmes aussi depuis 1858. La maison Boinet résiste au temps, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis fabriquer du sang, permettre des transfusions quand elles sont impossibles grâce à un ver marin, c'est le principe des marinas, c'est la solution pour sauver des vies sélectionnées. Au trophée de l'avenir, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez nous dire ce qui vous surprend dans les innovations françaises, car ce sont 400 entreprises qui nous ont représentées à Las Vegas, au CES, à Nice. Elles sont de retour, les bras chargés de récompenses.
Et vous pouvez venir les féliciter, leur poser des questions, n'hésitez pas. Ils vous écoutent sur Europe 1 jusqu'à 14h. Et c'est dès maintenant que vous pouvez composer le 39-21, le standard d'Europe 1. Vous pouvez également réagir, poser des questions, témoigner et parler à nos champions aujourd'hui sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Pour les accueillir et vous montrer qu'il y a chez nous un véritable vivier, à mes côtés comme chaque jour, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Guillaume Kérou qui nous accompagne. Bonjour Guillaume.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Président fondateur de Didaxis, président aussi du Club des entrepreneurs. Nous étions cocorico, hein. Ça fait toujours plaisir, le pays le mieux représenté après les États-Unis à Vegas, au CES, la French Tech en force. French Tech que vous représentez d'ailleurs, Lionel Châtaignier, bonjour.
Bonjour, bonjour
merci
à tous.
Merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes le fondateur et le PDG de PixMinds. Vous avez ramené... On les a là, ils sont à côté de nous dans le studio d'Europe 1. Vous pouvez les voir sur europe1.fr. Ah non, mais ça fait plaisir, écoutez.
Bah oui.
Voilà. Cypris, ce qui fait de vous la PME tricolore la plus récompensée. Alors, PixMinds existe depuis 2012, je crois, c'est ça?
Oui, absolument.
Vous êtes en Rhône-Alpes, hein, à Barbera. On prononce le Z ou pas, d'ailleurs?
Non. On ne prononce pas. Ça dépend, bon. Mais Barbera, non. Oui, Barbera.
Et votre première innovation récompensée, bah, c'est une souris nouvelle génération. Alors, cette souris, elle n'est pas classique. Au lieu d'être comme celle que j'ai à la main, là, sur un tapis, et de bouger de haut vers le bas ou de droite vers la gauche, elle bouge dans tous les sens. C'est ça?
Oui.
On peut, la faire bouger avec le poignet, la faire. Oui. C'est pour ça que j'explique, c'est pour ça que j'image.
On va essayer de l'expliquer rapidement. Là, sais-tu, en fait, nous, on a l'habitude de partir d'objets existants. Qui n'est pas disruptif, où on a l'habitude d'utiliser, et on essaye d'apporter réellement une vraie grosse valeur ajoutée. Donc là, cette souris, comme vous dites, il y a plusieurs innovations dessus. Nous avons inclus un joystick sur les côtés qui permet, dans le monde professionnel, de mapper différentes fonctions, des rotations de pièces, des zooms, des choses comme ça. Dans le monde du gaming, de courir, de s'accroupir, de choisir une arme. Et un qui va permettre, on imagine entre 20 et 25, 30% d'efficacité supplémentaire, puisque là, on n'utilise toujours la main droite. Autre grande innovation sur cette souris, on a tout monté l'ensemble sur une partie mobile. Donc en fait, elle est...
Sur des ressorts, hein, c'est ça.
Pas
comme
tout à
si
fait
c'était
ressorts,
sur des ressorts.
C'est plutôt un pivot, oui. Mais c'est plutôt un pivot. Donc
c'est
en fait,
ce qui permet de faire
l'effet de
bouger
bascule.
Le poignet, en
oui,
fait.
Oui, absolument.
Hein.
Donc, on retrouve encore une fois une possibilité de mapper des zooms pour des pièces, parce qu'on a plusieurs gammes, on travaille sur plusieurs produits.
Ça veut dire que, par exemple, si je me sers de la souris sur un écran avec un jeu vidéo, je vais pouvoir descendre ou monter
de la main. Faire ce que vous voulez, oui, descendre ou monter, mais aussi pas que. En tout cas, vous allez pouvoir faire 30 à 40% de fonctions supplémentaires avec les souris qui n'ont pas été, je le rappelle... qui n'ont pas eu d'évolution depuis plus d'une cinquantaine d'années. Donc là, il y a vraiment une matière.
Une réelle innovation.
Ouais.
Et vous avez aussi beaucoup travaillé, je crois, sur les écrans du futur. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? C'est de très grands écrans. Je ne sais même pas si on peut dire double XL, triple XL.
Oui, ben, ou quadruple même. Parce qu'on va jusqu'à 150 mètres carrés.
Ouais, je me demandais jusqu'où je pouvais aller comme ça. Mais...
On va s'arrêter aujourd'hui à 150 mètres carrés. C'est une techno qui est complètement nouvelle. car elle est interne. Alors, on ne va pas rentrer dans les discussions techniques, mais ça permettrait de faire sans aucun problème un jeu de squash, par exemple, ou pourquoi pas un terrain de tennis, qu'on peut la mettre dans tous les sens. Mais pas que la classe du futur. Des jeux aussi.
Oui, ça servirait de tableau pour les professeurs,
on nous a demandé tout ça. C'est pour ça que je parle d'exemples bien concrets où on travaille dessus. On a déjà un prototype d'une quarantaine de mètres carrés qui est complètement fonctionnel, qui marche même très bien. On en est très content. Alors après, les évolutions, c'est une tablette de 100 mètres carrés. Quoi. Oui. Après, on en fait bien ce qu'on a envie, mais c'est large. Le spectre est très large.
C'est inspirant, hein, dites-moi, Guillaume Kérou.
Comme à l'habitude, vous savez, trouver les pépites, en plus, qui représentent très bien notre territoire. Là, une belle success story de Savoie. Moi, on parlait de pivot. Ce qui m'intéresse, effectivement, c'est justement comment on passe de, si je schématise, d'un magasin de multimédia il y a quelques temps à un leader quasiment européen, mondial, sur son secteur. Comment se produit le pivot et comment on passe,
passe de l'autre côté.
Voilà.
C'est un état d'être. Moi,
c'est une recherche permanente.
Oui. Ouais, ouais. Puis j'ai toujours entrepris, mais entrepris d'un côté rigoureux, parce que dans notre travail, il faut être rigoureux, mais en prenant toujours du recul. Donc en fait, une idée comme ça va arriver, voir comme ça, je vais crayonner, après... On va y réfléchir. J'ai la chance d'avoir des gars hors normes, parce que on le cite jamais assez, mais bon, on arrive, on fait, j'allais dire la danseuse, mais non, on va pas dire ça à la radio. On va montrer des choses, on va essayer de les mettre vraiment en avant. Mais enfin, sans les gars derrière, il y aurait pas grand chose. Et puis, comme vous disiez, oui, les magasins, puis après les magasins, les entreprises, le B2B. Moi, j'ai toujours fait une base. Là, maintenant, on a un groupe avec des marques dedans, avec des entreprises. Il y a toujours une base qui fonctionne, qui ronronne, qui permet de rentrer le cash flow nécessaire. C'est pour ça qu'on n'a pas créé pendant quelques années, parce qu'on faisait tourner nos entreprises, on embauchait en permanence. Et il faut ramener les sous à la fin du mois, en fait, hein, pour ni plus ni moins. À partir du moment où on commence à être successful sur une, je reprends de l'argent, je le réinvestis dans de la recherche pure et dure. C'est comme ça que le groupe s'est doté d'une entité de brevets, enfin de patentes et d'ingénierie qui voilà. Et puis alors après, on fait des trucs pas trop mal, on s'en va au CES.
Oui, CES
et puis on voit autre chose.
Qui est vraiment un endroit fait pour vous, hein, j'ai envie de dire. Elisabeth, il y a un retour important pour les start-up sur investissement quand on va justement comme ça au CES ?
Là, on le voit. Retour sur investissement évident. Hein. D'abord, il est multiple parce que le but d'un tel salon, c'est aussi de trouver des distributeurs quand on est tout petit pour pouvoir vendre son produit, s'internationaliser. C'est bien pour se faire connaître. C'est quasiment aujourd'hui le passage obligé pour émerger et tenter de se faire une place. J'avais une question. Sans le CES, est-ce que ça aurait été la même chose pour vous ?
Honnêtement, pour l'Europe, oui. On s'implante en Europe, on est suivi. Nous, on a aussi une entreprise de distribution importante, donc on est multicanal, on avance bien. Pour les États-Unis, marché très compliqué, fermé, non. Et je rajouterais quand même que le CES est à l'américaine, hein, un très beau salon, très bien fait. Ce qui nous a permis d'avoir une grosse couverture, c'est justement les 6 prix qu'on a eus, parce qu'on s'est retrouvé 3e du classement mondial. Au début, on voit le classement, je fais bon, on était derrière Samsung.
Oui.
Et
ah oui.
Messi est devant Bosch, Siemens, Hewlett-Packard. Oui, ouais. Étrange au début, content, oui, c'est beau. Et ça a changé complètement la donne, en effet. Après, on a des choix à formuler. On va rester sur notre distribution, mais ça a changé la donne.
Bien sûr. Et on va rester ensemble. On parlera des autres innovations dans un instant, bien sûr, sur Europe 1.
Il est 13h10.
Europe 1.
Les crypto-monnaies, vous le savez, ont révolutionné le monde de la finance. Un expert français les a, en quelque sorte, sécurisées. En 4 ans, Ledger s'est imposé sur le secteur, ici en France. Et au CES aussi, bien sûr, avec ses innovations. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et elle bouge à travers la planète, à travers le monde entier, grâce à nos champions du CES de Las Vegas. Ils sont à vos côtés aujourd'hui, Raphaël Duchemin, et vous pouvez leur parler, leur poser des questions. N'hésitez pas, c'est dès maintenant sur Twitter, hashtag Europe 1 et au 3921.
Toujours avec Elisabeth Assayag qui m'accompagne, avec Guillaume Kérou qui est notre coach aujourd'hui. Il y avait au CES de Vegas pas moins de 4400 exposants, mais sur tous les produits qui ont été présentés, eh bien seulement 31 ont reçu un CES Innovation Honorary Award. Ce sont uniquement les entreprises les plus innovantes qui en sont récompensées et Ledger est de celles-là. Bonjour Éric Larchevêque.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Ledger, qui est une start-up spécialisée dans les crypto-monnaies. Votre mission, si je résume et si je simplifie, c'est de sécuriser les transactions. Comment est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez créé pour y parvenir ?
Alors, quand on possède des crypto-monnaies, hein, des bitcoins, ce qu'on possède vraiment, c'est une information, un bon porteur. Et on a besoin de le sécuriser. Donc, sur le même principe que si vous achetez de l'or physique, vous allez acheter un coffre, vous n'allez pas le laisser sur votre cheminée. Si vous achetez des crypto-monnaies, vous allez acheter aussi un coffre digital. Et c'est ce que propose Ledger. En anglais, on appelle ça un hardware wallet.
Alors, vous me voyez venir, parce que comme c'est virtuel, évidemment, on peut difficilement le ranger quelque part. Hein. Ce n'est pas la même chose que votre fameux lingot d'or. Je le mets où ? Je le mets sur une clé ?
Alors, c'est un bon porteur. C'est une information, donc c'est assez concret, finalement. Et cette information, on va les mettre dans une carte à puce. On utilise une technologie française, hein, de la carte à puce, pour sécuriser ces informations. Et ensuite, on va effectivement avoir un objet physique qu'on retrouve dans la main. Et le fait de donner une consistance physique à quelque chose qu'on a du mal à comprendre, je pense, a aussi pas mal participé au succès de nos produits, puisqu'on en a vendu 1,5 million d'unités dans 165 pays. Donc, ça a été une très belle aventure pour Ledger.
1,5 million, alors que vous tabliez plutôt sur 3 000 unités au départ.
30 000. En 2017, on avait prévu d'en produire 30 000. Hein, c'était à peu près nos forecasts. Et on en a vendu 1 million sur 2017. Donc, ça a été assez incroyable. On a dû vite mettre en place une production beaucoup plus large.
Comment on fait pour sécuriser ? Vous parlez de cette carte qui est à l'intérieur. On est très fort hein, quand on parle carte ici en France. Il y a des boîtes qui sont spécialisées justement en France sur ce secteur-là. Vous avez travaillé avec elles ?
Alors, on vient de cet univers. On capitalise sur 40 ans d'histoire et de savoir-faire, d'expertise sur la carte à puce, hein, ce qu'on appelle du hardware sécurisé. C'est la technologie qu'on retrouve dans des cartes de paiement, les passeports, les cartes SIM. Et on l'a un petit peu dépoussiérée pour la mettre au goût du jour et donc pouvoir sécuriser les crypto-monnaies, les transactions blockchain.
Ces coffres, ils sont produits en France. C'est ça aussi la bonne nouvelle du côté de Vierzon ?
Alors, du côté de Vierzon, on a investi 8 millions d'euros dans un centre de production pour pouvoir rapatrier toute la production qu'on faisait avant en Chine. Avant, on avait commencé à Vierzon, puis on a dû aller en Chine pour en faire des millions d'exemplaires. Et là, on revient en France, à Vierzon. Notre objectif, c'est effectivement d'avoir de la flexibilité, d'avoir une production proche et plutôt de créer de la valeur dans nos territoires plutôt qu'à l'étranger.
Que dit notre coach, Guillaume Kérou ?
Ce qui est intéressant, encore une fois, là, on... crypto-monnaie, on parle donc effectivement de concrètement à quoi sert la blockchain. Pour tous ceux qui nous écoutent, souvent on parle blockchain, on ne sait pas trop effectivement à quoi ça correspond. Moi, il y a plusieurs points qui m'intéressent. Déjà, effectivement, le fait qu'on puisse relocaliser en France, je crois quasiment 4000 mètres carrés à Vierzon, oui. C'est quand même notable. Il y a peu d'industries aujourd'hui qui se déploient sur autant de surface. Le chiffre d'affaires de la structure, on a une structure qui est sur un secteur très, très particulier et qui est aujourd'hui, on peut le dire, une entreprise de taille intermédiaire, donc une grosse PME et en plus de ça, une grosse PME qui se développe. On en a peu en France et quelques milliers de PME qui ont cette taille. Et puis enfin, 97% d'exportation pour une PME française qui relocalise en France. Moi, j'ai envie de dire, banco, on coche toutes les cases, félicitations. Mais, question, on est sur la blockchain, crypto-monnaie, très gros focus. Demain, est-ce qu'il y a d'autres applications à partir de cette expertise blockchain possible, imaginée dans les starting blocks ?
Éric Larchevêque ?
Alors, on a effectivement, dans le domaine de la sécurité, de la sécurisation des données personnelles, il y a pas mal de choses que l'on peut faire. On voit qu'il y a quand même une tendance à vouloir se réapproprier sa donnée. On en a peut-être assez d'être le produit qu'on utilise certains services. Et avec l'avènement de la décentralisation de la blockchain, il y a un courant qui vise à la réappropriation de la donnée. On veut avoir On peut posséder ces données, on a donc besoin de les sécuriser et donc nos produits pourront tout à fait servir à proposer des solutions concrètes dans ces domaines-là.
Elisabeth, partir au CES avec une innovation comme celle-là ou comme d'autres, c'est aussi l'occasion de se faire connaître dans le monde entier et notamment auprès des géants.
Oui, auprès des géants, auprès des grands groupes. Alors j'ignore si ça a été le cas pour vous, mais par exemple, il y a une start-up française qui a noué un partenariat avec Apple, une start-up qui permet tout simplement aux gens d'être plus détendus, plus relaxés. C'est un chercheur du Centre de sommeil de Paris qui a créé Séraphin, un livre dans lequel ranger son smartphone avant de dormir. Un livre qui émet de la musique, de la lumière et qui récolte les données ô combien intéressantes pour Apple, les données du sommeil et qui enregistre chaque réveil.
On reste ensemble, on continue à découvrir ces pépites françaises aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Vous connaissez tous la lampe d'Aladin. Eh bien, elle existe, oui, vraiment. Elle est française et elle est connectée. À tout de suite.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, vous recevez des champions, Raphaël. Les champions français qui ont cartonné au CES de Las Vegas. Ils viennent les bras chargés de leur trophée. Vous pouvez leur poser des questions sur leurs innovations. N'hésitez pas, c'est dès maintenant au standard d'Europe 1, le 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
On a tous lu Aladdin ou vu le dessin animé, mais dans la lampe dont nous allons parler, il n'y a pas de génie qui exauce les vœux. Bonjour Maximilien Petitjeunet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé de Domalis qui a donc conçu cette lampe Aladdin, qui est une lampe connectée. Son objectif, c'est d'aider, si j'ai bien tout compris, les seniors à rester plus longtemps à domicile. Comment elle s'y prend ?
Oui, absolument. En fait, on le sait assez peu, mais il y a un gros danger qui guette tous les seniors, c'est la chute. En fait, il y a 2/3 des personnes âgées qui chutent tous les ans et ça cause 3 fois plus de décès que les accidents de la route. Alors, on parle du 80 km/h toutes les semaines, mais ça reste complètement sous les radars. Et du coup, nous, on a voulu adresser ça, on a voulu essayer de proposer une solution à ça, principalement en accent sur la prévention. Également bien sûr sur le curatif, mais la prévention c'est quelque chose qui est oublié aujourd'hui. Tout le monde connaît la mamie avec le bracelet autour du cou qui peut appuyer quand elle a un problème, mais ces bracelets-là, ils n'ont jamais empêché qui que ce soit de tomber ou d'entrer en dépendance.
Donc Aladdin, comment elle marche ? Elle a quoi de spécial justement pour arriver à aider nos seniors ?
Alors Aladdin, donc c'est une lampe magique avec un génie à l'intérieur. Ouais. On en installe 3 dans la maison.
C'est pas un vrai, il sort pas comme ça.
Non,
ah bon,
malheureusement.
Mais, sinon, je l'achète tout de suite. Hein.
Mais il y a quand même une intelligence à l'intérieur en fait. C'est-à-dire que au-delà du simple fait que, bon, étant une lampe, elle va s'éclairer de façon automatique quand le seigneur va aux toilettes la nuit, ce qui est quand même 3/4 des causes des chutes. À l'intérieur de la lampe, il y a une intelligence qui va en fait mesurer les habitudes de vie de la personne âgée de façon non intrusive. Il n'y a pas de caméra, mais en combinant des détecteurs de mouvement, de température, de luminosité, Aladdin va être capable de deviner à quelle heure en fait mamie devrait dormir, à quelle heure d'habitude elle mange, combien de fois elle se lève la nuit d'habitude. Et s'il y a quelque chose qui bouge de façon anormale, on peut imaginer que si mamie se lève 5 fois par nuit, probablement il y a une pathologie derrière ça. Et donc Aladdin va prévenir les dents de confiance, en général les enfants, qui vont du coup voir avec le médecin, avant que la chute arrive, quel est le problème.
Ça veut dire qu'avant de mettre Aladdin en service, il faut rentrer des données à l'intérieur, lui dire voilà, le tiers de confiance c'est un tel. Ça marche aussi, je suppose, avec les maisons de retraite ?
Absolument. Alors, en fait, un des intérêts, c'est qu'Aladdin apprend tout seul. Une fois qu'il est installé, donc effectivement, à domicile ou en EHPAD ou en maison de retraite, Aladdin, pendant 30 jours, va mesurer les habitudes de vie de la personne sans qu'on ait besoin de lui rentrer de paramètres particuliers, si ce n'est effectivement les aidants qu'il faut contacter. Donc, la différence, c'est qu'en maison de retraite, si jamais il y a une alerte, si jamais il y a une chute, parce que donc Aladdin est capable de détecter immédiatement la chute, il va prévenir les équipes de soins. Si on est à domicile, il n'y a en général pas d'équipe de soins à proximité, mais on peut lui demander soit d'appeler le voisin ou quelqu'un qui est à proximité, soit une téléassistance. Aladdin est également branché sur un système de téléassistance et donc va pouvoir gérer la chute.
Elle a d'autres fonctionnalités ou pas, cette lampe ?
Oui, en fait, c'est grâce à ça qu'on a gagné un Innovation Award cette année, c'est qu'on a enrichi l'offre d'Aladdin. Au départ, il sécurisait l'intérieur du domicile. Maintenant, on est également capable de faire 2 choses supplémentaires. On sécurise l'extérieur du domicile grâce à un partenariat qu'on a fait avec Arkéa Crédit Mutuel. Le senior qui, par exemple, part en VTT peut donc porter une montre qui va le géolocaliser et qui va, en cas de chute ou en cas de problème, le connecter à un plateau de téléassistance. La deuxième chose qu'on est capable de faire en plus, c'est que On s'est rendu compte que les personnes âgées aussi entrent en dépendance parce que progressivement, elles perdent le lien avec la famille et avec les proches. Donc là, on peut rajouter en fait un cadre connecté, un cadre simplifié. Qui... Donc Mamie ne peut pas jouer avec, ne peut pas aller sur l'App Store avec. Mais elle va pouvoir soit déclencher l'équivalent de Skype avec la famille simplement en cliquant sur le visage de la personne aimée. Soit au contraire, la famille peut partager depuis son smartphone les photos avec les petits-enfants au ski, etc. Et ça va s'afficher sans que Mamie ait besoin de faire quoi que ce soit sur son cadre pendant la journée.
Que dit notre coach ?
Non, c'est encore dans l'Internet des objets, encore un bel exemple. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal d'exemples en tête. Est-ce que le marché aujourd'hui, il est mature et quels sont aujourd'hui les freins au développement de ce business ?
Oui, en fait, nous, on pense que justement, le crypto market est parfait et on a un exemple pour montrer. C'est que sur la dernière Apple Watch qui vient de sortir, vous avez un détecteur de chute pour les personnes âgées. C'est bien que le marché est là et que c'est une fonctionnalité que les gens attendaient.
De toute manière, vous êtes présent en France. L'idée, c'était de vous développer davantage aux États-Unis, ce que vous avez commencé à faire d'ailleurs.
Absolument, on a eu beaucoup de chance parce que bon, les États-Unis, c'est le plus gros marché mondial pour nous. Et grâce au CES, on a signé sur le CES des accords avec des distributeurs. On a signé juste après avec des clients. Et on a installé lundi dernier, cette semaine, on vient juste de revenir de Washington, où on a installé notre première maison de retraite aux États-Unis.
Elisabeth, là on vient de parler de la lampe Aladdin. Il y a aussi une start-up qui prend soin de nos abeilles,
oui,
je crois.
Oui, le CES trouvé. De Las Vegas, ce n'est pas seulement les êtres humains, c'est aussi nos petites abeilles. Et c'est une start-up qui vient d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Bee Life. Elle a été titulaire d'un Best of Innovation Award au CES. Alors cette entreprise, elle fabrique des ruches isolées qui permettent aux abeilles de ne plus mourir de froid. En leur ajoutant un petit module connecté, les apiculteurs peuvent gérer très précisément la température de l'habitat des abeilles, mais aussi de combattre des parasites qui détruisent les ruches.
On reste ensemble, on continue à découvrir nos champions français sur Europe 1.
Il est 13h27.
Restez avec nous, 3921, on vous attend. Venez aussi poser vos questions. C'est ça, la France qui bouge, à tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui, Raphaël Duchemin, vous recevez les champions français qui ont cartonné à Las Vegas pour cette édition du CES 2019. Ils sont là avec leurs trophées, leurs innovations et leurs idées. Vous pouvez d'ailleurs leur poser toutes vos questions. N'hésitez pas, c'est dès maintenant 3921, le standard d'Europe 1.
Oui, alors j'ai un petit problème, c'est qu'avec Lionel Châtaignier, qui est PDG de PixMinds, je ne sais pas par où commencer. On a vu déjà quelques-unes de ces innovations, mais il y en a tellement que c'est difficile de les sélectionner. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui est votre innovation préférée, celle qui est vraiment, y compris pour vous, la plus bluffante ?
Les écrans géants tactiles.
Oui, les écrans géants, ça on en a parlé.
C'est bluffant, oui. Après,
vous en avez ramené 6 quand même des trophées, donc il y a de quoi dire. Vous avez un baby-foot en 3D, flipper numérique fabriqué main.
Oui, en France, absolument, comme mon collègue de droite.
Ouais.
On fabrique en France, et l'ingénierie et la fabrication.
Alors c'est on me dit flippers. Dans le casque, c'est quoi un flipper numérique ?
Ben, c'est des flippers, des bornes d'arcade. La genèse, c'est qu'on voulait jouer à des flippers, il n'y a plus aucune société de flippers. On s'est mis à fabriquer des flippers. On part sur le même cahier des charges, une centaine de kilos, on peut le tilter et tout ça. Ben, c'est juste
il y a des vrais balles ou pas ? Non.
Non, non, c'est des écrans un peu spéciaux qui donnent un effet de contraste terrible, l'illusion est parfaite. On peut changer de table, on a passé des accords avec Red Bull. On fait pas mal de choses comme ça. Les bornes d'arcade que tout à l'heure, là, on discutait. Donc une borne d'arcade comme à l'ancienne, où on avait des jeux à l'époque, c'était Astéroïdes, Pac-Man, etc.
Ouais.
Voilà, là ça parle mieux. Mais bon, nous on a mis des PlayStation et des Xbox et des vieux jeux comme ça. On a la borne 2.0 connectée sur le cloud avec tout ce qui va avec.
Et alors vous disiez tout à l'heure fabriquer main en France.
Ouais.
Mais on peut tout fabriquer aujourd'hui ici chez nous ou vous êtes obligé
si
de fabriquer
veut,
une partie en Asie ?
Non. Les bornes, les flippers, la souris est fabriquée moitié Asie, toute l'ingénierie est en France. Qu'on a pas
les écrans aussi
plastique.
Ici en France ?
Non, là, les écrans, mais on les achète tout fait. En fait, on les a fait faire dans une UC qu'on a en Asie. Un écran reste un écran quand même, c'est compliqué. Alors que l'écran tactile, lui, est entièrement fait en France.
Je me tourne vers votre voisin, comme vous dites, qui fabrique aussi en France, effectivement, Éric Larchevêque. Vous avez aussi un beau développement. Vous étiez 20 au départ, vous êtes... 200
on est 200 aujourd'hui, oui. L'entreprise a connu une croissance assez extraordinaire en 2017 avec l'envolée des marchés des crypto-monnaies, de la blockchain. C'était une histoire assez extraordinaire puisqu'on a recruté énormément, on s'est beaucoup développé. On a ouvert à l'étranger les bureaux à San Francisco, New York, Hong Kong, parce qu'on est présent dans le monde entier et on devait avoir des bases opérationnelles au plus proche de nos clients.
Vous travaillez un peu comme quand on sécurise une pièce d'identité, si je résume, c'est un peu ça aussi.
C'est la même technologie de base, exactement. Oui, c'est vraiment la carte à puce. Et comme c'est un savoir-faire français qui n'est pas tellement connu à l'extérieur, pour une fois, pour les Américains, par rapport aux Américains, on avait quelque chose à apporter. Et donc, c'est pour ça que nos produits ont pu s'exporter si facilement, puisque c'est vraiment une expertise française. Et on est quasiment seul sur le marché mondial.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé des particuliers, mais il y a aussi une application demain pour les banques, par exemple.
Ah, tout à fait. On utilise la même technologie, mais pour les entreprises, les institutions financières qui possèdent des crypto-monnaies aussi, qui veulent les sécuriser, avoir de la gouvernance. Et on travaille aussi dans l'univers de l'Internet des objets pour, par exemple, sécuriser les certificats d'origine de l'énergie renouvelable. Enfin, il y a beaucoup d'applications de la blockchain dans laquelle on peut connecter des objets physiques et notre technologie en assure la sécurité.
Maximilien Petitgenet, vous, on l'a vu avec la lampe Aladdin, vous avez commencé à arriver sur le marché américain. La Silver Economy, c'est un marché important qui va être en développement. Ça veut dire que vous êtes 25 aujourd'hui, vous allez être beaucoup plus demain, vous allez développer cette activité ?
Oui, absolument. En fait, on est 25 aujourd'hui dans l'activité d'Omelis. On était une personne au départ, Arnaud Briot, mon associé qui a fondé l'entreprise. Et on continue à recruter tous les mois. La Silver Economy, en fait, c'est un secteur qui est en croissance de façon certaine pour les 30 prochaines années. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui peuvent en dire autant. Exactement. Et quand on parle de notre produit, d'Aladdin, à n'importe qui, tout le monde pense à une maman, une grand-mère, un oncle, une tante qui vit seule chez lui, chez elle. C'est un problème qui nous touche tous, quel que soit notre statut, etc. Donc oui, c'est un secteur en forte croissance qu'on va continuer d'adresser.
Vous êtes fier d'être rentré avec une récompense du CES ?
On est très fier de ça parce qu'on a la conviction qu'on améliore le monde à notre échelle. En fait. On dit toujours qu'on ne vient pas vendre des photocopieurs. On sait qu'avec Aladdin, on sauve des vies. Mais je crois que voilà, y a pas plus beau pour une entreprise.
Merci à tous les trois d'être venus nous parler innovation française. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h35.
Europe 1.
Elle faisait, elle, des boutons. Aujourd'hui, elle fabrique des ceintures. La maison Boinet, fondée en 1858, est l'entreprise qui va bien. Merci, c'est dans un instant.
Europe 1.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Maintenant, il est temps de découvrir l'entreprise qui va bien. Elle est française et elle a plus de 160 ans, Raphaël.
Oui, c'est celle que fonde un passionné de mode en 1858, la maison Boinet. Bonjour Bruno aujourd'hui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vous qui dirigez cette belle maison. C'est Ernest Baumert qui adore les accessoires, qui décide au départ de se lancer dans le commerce de boutons. Racontez-moi d'où lui vient cette passion, les boutons de nacre notamment.
Absolument. Donc Ernest Baumert a créé Maison Boinet en 1858. C'était le début en fait de la mode masculine. Et les héritiers, après cela, en 1930, se sont lancés dans la ceinture et les bretelles, puisque les boutons de nacre, en fait, étaient un petit peu moins...
Un peu plus désuets,
un petit peu plus compliqués à vendre. Et bon, la mode masculine se développant, le début de la ceinture Boinet est arrivé en 1930.
On est dans l'Indre-et-Loire, à Château-Renard. C'est là que l'entreprise est établie et c'est là qu'elle est toujours.
À l'origine, l'entreprise était basée en région parisienne et dans les années 60, en fait, Château-Renaud est un bastion en fait de tannerie.
J'ai
à l'origine.
Château-Renard, oui, pardon.
Oui,
Château-Renard, c'est dans le sud.
Tout le monde fait la même erreur. Et Château-Renaud, en fait, est un bastion de tannerie à l'origine. Et donc, pas mal d'entreprises qui travaillaient le cuir se sont installées à Château-Renaud. Donc, Château-Renaud étant basé à peu près à 2 heures de Paris.
Donc du coup, il y a une réorientation, hein, vous le dites, par les héritiers de cette société. Et puis, ça va être bousculé, notamment par l'arrivée de la mode féminine qui se développe de plus en plus. Et là, il y a un vrai changement qui s'opère. On passe de l'homme à la femme. On garde quand même le trait d'union, la ceinture.
Absolument. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Maison Boinet, l'entreprise Boinet, jusque dans les années 2000, était... franco-française, hein, puisqu'on travaillait à la fois pour de la sous-traitance pour des marques françaises et des marques de private label, enfin la marque Douglas qui était la marque propre de Boinet sur le territoire français, essentiellement sur Delhomme et essentiellement sur le marché français. Et moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise, bon, les affaires étaient plutôt compliquées parce que tous les grands comptes avaient tendance à aller faire du sourcing assez loin, donc notamment en Chine, en Asie de façon générale. Et l'idée, c'était aussi de remettre en valeur tous les atouts d'une entreprise qui avait une histoire, donc qui datait de 1858, qui fabriquait toutes ses ceintures en France et qui avait quand même des vertus, qui étaient intéressantes pour développer du business.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, c'est que vous, c'est justement... Ils sont restés les Boinet jusqu'en 2005 dans l'entreprise. Et c'est le dernier qui vous a formé, qui est parti, je crois, en 2009.
Il est parti en 2009. Donc, l'entreprise a été rachetée par Dominique Vigin, qui est mon patron, mon actionnaire. Et donc, le dernier des Boinet est resté jusqu'en 2009 et il m'a formé pendant 6 mois.
Voilà. Avec pour vous la volonté, en tout cas, de maintenir ce savoir-faire à la française. Vous tournez donc vers le marché femme, le marché accessoire qui est important. Vous avez aussi entre-temps obtenu le label entreprise du patrimoine vivant. Mais vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez aussi un peu révolutionné les choses parce que vous avez changé le mode de production, vous avez refait de la formation. C'était important?
Bah en fait, on était sur un business model qui était très orienté grand compte avec des grandes séries. Et du coup, nos clients à l'époque, avant que j'arrive, nous demandaient des prix. Enfin, on peut imaginer que quand ils sont partis...
Alors qu'on est dans du fait main, on est dans,
on
dans
était
des choses
sur des grandes,
très qualitatives.
L'entreprise, en fait, à l'origine, avait investi dans des machines pour faire vraiment des grandes séries. Et du coup, le savoir-faire, dans toutes les entreprises, il part très vite. Donc, la volonté et l'obligation a été effectivement de reformer les gens et puis de retrouver ce savoir-faire qui, quand même, est souvent lié au Made in France dans l'esprit des gens. Et on a commencé, en fait, grâce aux collections femmes qu'on a développées, à toucher des marchés export, et notamment le Japon, qui ont été les premiers clients de Maison Boinet.
Que dit notre coach ?
Non, encore une fois, une entreprise très, très traditionnelle qui sait, moi j'aime bien le pivot avec mes startups, qui sait pivoter, trouver un marché avec tout un tas de points forts, d'atouts, l'entreprise de patrimoine vivant. Aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes et quels sont les challenges aujourd'hui de cette PME qui s'est repositionnée ?
Les challenges d'aujourd'hui, c'est de suivre la nouvelle technologie, et notamment liée au digital, et à la fois au niveau de la communication, mais aussi du business,
donc e-commerce.
Du e-commerce. Donc, on a lancé notre e-shop en septembre 2018.
Oui.
Donc, il est tout nouveau, tout neuf, tout frais. Donc, ça commence plutôt bien. Et ça, c'est vraiment un axe de développement. Je pense que toutes les entreprises ont pour obligation de suivre cette avancée de la technologie. Ça, c'est la première étape qui est importante dans les challenges de l'avenir. Et puis aussi, c'est de devenir une marque à part entière. Donc, on a lancé la maroquinerie en 2017 parce qu'en fait, la ceinture en tant que telle, elle est difficilement porteuse d'un esprit de marque.
Faites des
complète.
Bracelets donc aussi on a commencé, désormais. Ils sont magnifiques.
On a commencé par les bracelets, qui sont une extension de la ceinture. Ensuite, par la maroquinerie en 2017. Et toujours pareil, on a travaillé le détail des bandoulières avec un rappel de la ceinture. L'idée, c'est vraiment de retravailler une marque de façon globale et qui cohabite, que les produits cohabitent ensemble.
Et je précise que votre chiffre d'affaires est reparti à la hausse. Je crois que vous fabriquez 100 000 ceintures, c'est ça, par an, environ ?
Non.
Un petit peu plus, peut-être ?
Non, un petit peu moins.
Un petit peu moins. La montée en gamme, c'est aussi ce qui vous a permis de regagner des clients, de regagner des marchés. 36 personnes qui travaillent avec vous.
Absolument.
Aujourd'hui. Et je précise aussi que vos tanneurs respectent les normes environnementales. C'est important de le dire. Vous utilisez aussi des cols sans solvant. C'est
Colao.
La maison. Ouais. Maison Boinet, 1858, entreprise du patrimoine vivant. Merci d'être venu nous
Merci
en parler
à vous.
Aujourd'hui sur Europe 1.
Merci,
il est
à bientôt.
13h46.
Europe 1.
Sauver des vies grâce à du sang issu de vers marins, c'est la solution proposée par Emarina, entreprise sélectionnée pour les trophées de l'avenir. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Celle d'aujourd'hui pourrait sauver des vies.
Oui, sauver des vies grâce à un ver marin. Ce n'est pas sorti d'un film de science-fiction, non, c'est la réalité. Et cette entreprise eh bien, est en lice pour les trophées de l'avenir d'Europe 1 qui auront lieu le 11 février, je vous le rappelle. Elisabeth, ces vers marins peuvent fabriquer du sang et donc sauver des vies.
Oui, parce qu'en France, plus de 22 000 patients sont dans l'attente chaque année d'un organe qui pourra leur être greffé. Or, la moitié des greffons ne peuvent être transplantés faute de temps ou parfois même à cause de soucis techniques. Ils n'arrivent pas forcément à se réadapter au corps. La personne qui est ici, en studio, Franck Zahl, a trouvé une solution à ce problème. Il a découvert dans l'arnicole, c'est le ver de vase ou le ver noir que l'on trouve sur les plages, notamment sur les plages bretonnes, qui est un transporteur d'oxygène naturel. Et à partir du sang du ver marin, l'entreprise a produit un additif aux solutions de conservation des organes destinés à être greffés. Donc cette découverte permet de mieux préserver les greffons. Les chirurgiens disposent ainsi d'organes en meilleur état et plus de temps, 7 jours au lieu de 12 heures.
Bonjour Franck Zahl.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes biologiste et président fondateur d'Emarina. Vous avez donc développé un substitut sanguin à partir de ces fameux vers marins. Comment est-ce que vous en êtes venu à ces vers ?
Alors j'ai un parcours un peu atypique parce qu'en fait moi j'ai passé 15 ans de ma vie dans un laboratoire de recherche publique qui s'appelle le CNRS et en fait je m'intéressais à un truc qui intéressait personne, c'était d'essayer de comprendre comment un ver était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Vous voyez, ce ver c'est l'arénicole, c'est les petits tortillons en fait qu'on voit sur les plages. Ouais. Et donc moi ça m'a intéressé parce que ça m'a interpellé de savoir comment on respirait dans l'air et dans l'eau. Et finalement en travaillant sur la respiration de ce ver, j'ai trouvé en fait l'ancêtre de nos globules rouges qui est une hémoglobine en fait extracellulaire. Pas de typage sanguin, donc il peut être utilisé dans tous les types sanguins et surtout qui est lyophilisable. Donc on peut aujourd'hui avoir l'équivalent d'une poche de sang en poudre. Quand vous donnez votre sang, c'est 42 jours à 4 degrés, donc le temps de conservation. Aujourd'hui, nous, on va aller à 5 ans à température ambiante sans typage sanguin.
C'est extraordinaire. Donc en leur apportant de l'oxygène, ce produit permet de ralentir la dégradation du greffon pour les personnes qui sont en attente de greffe. Vous avez déjà sauvé des vies là, avec votre produit ?
Alors oui, c'était pas pour elle, on a déjà sauvé 61 vies avec le produit. On a passé le produit en fait, dans un essai clinique qui s'appelait Oxyop, un essai clinique multicentrique avec 6 hôpitaux qui étaient impliqués dedans, donc Brest, Tours, Lyon, Limoges, Poitiers et la Salpêtrière. On a greffé 60 personnes en fait, avec ce produit qui s'appelle Hemodolife. Et plus récemment, donc, vous avez probablement entendu parler de la greffe du visage qui avait été faite par le professeur Lantieri. Oui. Elle a été faite en fait avec Hemodolife, parce qu'il avait besoin notamment de temps pour aller récupérer cette face, la transplanter en fait chez ce patient.
Donc c'est un gain de temps. Là en ce moment au CHU de Reims, il y a un programme d'essai clinique qui est en cours, je crois, concernant les greffes de foie. Quand votre produit va-t-il arriver complètement sur le marché ?
Alors, le développement d'un produit comme ça, c'est extrêmement long. On est dans le domaine réglementaire, dans le domaine de la santé. Et Marina, c'est 11 ans d'existence. Et donc, aujourd'hui, là, on est vraiment dans la dernière phase. C'est-à-dire qu'on a, je dis toujours, on a 2 tampons sur 3 pour commercialiser le produit. Donc, on est dans cette phase réglementaire. Et ça devrait arriver incessamment sous peu pour distribuer le produit dans tous les hôpitaux, en fait, en 2019.
Guillaume ?
Moi, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Donc, déjà, bon. Bienvenue dans la matrice, on est carrément dans le futur. Premièrement, vu les enjeux que mobilise toute cette technologie, déjà, où on trouve les investisseurs et les marchés aujourd'hui, j'ai compris que le marché français était compliqué. Quels peuvent être les marchés demain sur ce produit-là qui peut-être en ont besoin davantage qu'en France où j'ai l'impression que c'est plus compliqué.
Alors en fait, 3 chiffres. En fait, il manque dans le monde aujourd'hui 100 millions de litres de sang pour satisfaire les besoins de la population mondiale. 80% de la population mondiale n'a pas accès au sang. Donc ça vous donne la taille en fait de alors, ce marché ou ces besoins. Depuis qu'on a parlé, en fait, il y a une amputation toutes les 30 secondes liée en fait, au problème de diabète, liée à des problèmes d'oxygénation au niveau des personnes qui souffrent de ce diabète. Et en fait, comme on le disait tout à l'heure, il y a en fait, aujourd'hui plus de 23 000 personnes sur liste d'attente, sachant que sur cette liste d'attente, 500 personnes décèdent par manque de greffons. Donc le marché est énorme, c'est un marché qui est mondial. Et donc comment on s'est financé dans un premier temps ? On s'est financé, alors on est un peu atypique parce qu'on ne s'est pas financé avec du capital risque, on s'est financé par des personnes qui ont cru en nous.
Par des donateurs
qu'on appelle des business angels, qui sont venus au capital très tôt en fait, dans l'entreprise, notamment le réseau des Finistère Angels, un réseau structuré en Bretagne qui nous a permis d'arriver jusque-là. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y arriver sans lever des centaines de millions d'euros. Et Marinéa, aujourd'hui, a levé 22 millions d'euros pour arriver à en fait, cette technologie qui va être sur le marché en 2019. Et donc, toutes ces personnes nous ont fait confiance. Parce que je peux vous dire qu'au démarrage, quand j'ai dit qu'on allait travailler sur un ver marin pour aller sauver des vies, ce n'était pas si simple.
Bravo.
Bravo vraiment. Bravo. Et Marina qui est donc, hein, on le rappelle, Elisabeth, sélectionnée évidemment pour les trophées de l'avenir. Catégorie santé,
évidemment.
Forcément. Merci d'être venu nous
Merci
la présenter.
Merci à vous.
Merci Guillaume Carreau d'avoir été notre coach
Merci, Raphaël,
aujourd'hui.
Merci à toutes.
Et on se retrouve demain.
À demain Raphaël.
Nous parlerons mobilité au travail. Vous allez avoir quelques belles surprises.